Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Chers auditeurs et auditrices des Radio Okapi, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ces ondes de la Radio de la Paix dans ces rendez-vous hebdomadaires consacrés à la promotion de nos valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre dans nos sociétés ancestrales. Quelles étaient les raisons des batailles? Comment la décision de faire la guerre se prenait-elle? Comment les guerriers étaient-ils préparés? Comment la guerre se soldait-elle? Et finalement, est-ce qu'il y a des éléments de l'art de la guerre des ancêtres que nous pouvons appliquer dans nos guerres actuelles pour arriver à les régler? Dans ces premiers numéros d'identité culturelle sur ces sujets, nous recevons deux invités, Mouindo Wema Kennedy de la communauté Nande du Nord Kivu et Dido Makila de la communauté Dinga de Bandundu. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Messieurs, mesdames, et bonjour. La guerre dans nos sociétés ancestrales, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous avons demandé à Monsieur Wema Kennedy si, dans l'histoire de sa communauté Nande, existait la guerre.
Il faut prendre l'approche anthropologique de la guerre. Ça veut dire, dans les temps, les nations se combattaient toujours. Les nations survivaient par les conquêtes. Disons dans les Kivu, par exemple, qui est la zone que nous habitons et qui est en guerre, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans. Les nations, à l'époque, c'était l'équivalent des tribus qui représentaient les nations. Et chaque tribu avait un territoire comme nation. Et il y avait une organisation politique et administrative. Ça veut dire à partir des chefs, après les chefs, il y a les sous-chefs. Ou, par exemple, chez les Banane, il y avait le Mwami, puis il y avait les Wakama, puis il y avait les gens qui ont des terres qui peuvent louer aux gens. Donc, il y avait une certaine organisation administrative et politique. Alors, il fallait protéger. Il y avait dans l'organisation les gens qui ont pour travail de se battre ou bien de protéger. C'est l'équivalent des militaires aujourd'hui. Et ces gens-là avaient des armes pour protéger la communauté. Ces armes ne pouvaient jamais être utilisées, par exemple, pour se bagarrer avec ton voisin. Non, c'était uniquement, par exemple, chez les Nande, les lances et les boucliers, qu'on appelle Ngabo jusqu'à aujourd'hui. Ces outils étaient utilisés uniquement pour défendre le périmètre de la nation. Alors, comment s'est passée la guerre? S'il arrivait qu'on entre en contentieux avec la nation voisine, les premières démarches, on ne se battait pas le lendemain. On cherchait d'abord la possibilité de trouver une solution sans se bagarrer, sans qu'il y ait des gens qui vont mourir. Le Mwami d'ici pouvait envoyer un émissaire à son collègue Mwami d'une autre nation pour lui dire, mais vos gens commencent à empiéter sur mon territoire, ou ils commencent à venir chasser sur mon territoire. Je voudrais que vous puissiez les leur interdire parce que ça peut nous créer des problèmes.
Oui.
Et à ce moment-là, on pouvait éviter la guerre. Mais si à la fin, on n'arrivait pas à solutionner la question et qu'il arrivait qu'on soit obligé de se confronter, il y avait des rituels qui précèdent la guerre.
Oui.
Ça veut dire, par exemple, les soldats de l'époque, ceux qui sont chargés de protéger la nation, devaient se soumettre à un certain rituel. Souvent, c'était les rituels de la purification. On ne peut pas aller à la guerre en état souillé. Parce qu'on sait qu'aller à la guerre, c'est aller mourir. Et qu'en mourant, on va rencontrer les ancêtres.
Oui.
Il faut se préparer à aller rencontrer les ancêtres. Par exemple, il était interdit pour le soldat de l'époque de coucher même avec votre propre femme quand vous vous préparez à aller à la guerre. Vous devez vous préparer comme ça. Il était interdit de manger une certaine qualité de nourriture quand vous préparez la guerre. Il était interdit qu'il y ait des traîtres. On sait du clan qui peuvent transmettre des données ou des informations qui vont compromettre le déroulement de la guerre. Et ensuite, ces guerres-là, c'était comme des guerres du corps à corps. Ce n'était pas des guerres où il n'y avait pas de fusils où on va tirer à 20 km. Donc, les gens devaient se rencontrer pour se bagarrer, soit sur le sommet d'une montagne, soit dans une vallée, c'était comme une guerre conventionnelle organisée. Et que ceux qui vont perdre vont être soumis. Ceux qui vont gagner, eh bien, ils vont soumettre les autres. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais souvent, ça finissait toujours qu'on va finir par s'attendre. Et ça veut dire que, bon, okay, on va sceller, par exemple, une alliance, dire qu'on ne se battra plus. Le fils du roi ou du Mouami va aller épouser la princesse d'un autre Mouami. Et on scelle à travers un mariage, on va créer comme un pacte. Et on s'attend que, comme il y a déjà un enfant, on ne peut plus se bagarrer entre nous, parce que sinon on va sacrifier l'enfant. Donc, autant de rituels, mais il se raconte aussi, faut-il que ça soit prouvé, qu'on pouvait faire des sacrifices avant la guerre. Avant que les hommes aillent se battre, on fait un sacrifice. Ça fait partie des rituels, comme j'ai dit, qui précèdent la guerre. Que bon, on va sacrifier un animal, ou bien on va sacrifier une personne. On va sacrifier une personne pour que les dieux exaucent nos prières, que nous puissions vaincre nos adversaires.
Comparativement aux guerres d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut qualifier les guerres de l'époque?
Les guerres de l'époque étaient des guerres justes parce que c'était pas pour... Généralement, on ne faisait pas la guerre juste pour aller dominer. Il fallait qu'il y ait un casus belli. Ça veut dire qu'on ne se réveillait pas pour dire « Ah, notre territoire est petit, on veut l'agrandir et on va aller empiéter sur le territoire de l'autre. » Non. Généralement, c'était « Il y a un problème. » Par exemple, le fils d'un autre est allé se retrouver par inadvertance dans la zone d'autrui et qu'on l'a tué là-bas. Et que pour le venger, on dit non, mais ça ne va pas se passer comme ça, on va se bagarrer, on va régler les problèmes. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment qu'on se réveille pour des conquêtes et qu'on va faire la guerre pour le plaisir de faire la guerre. Non, c'était des guerres généralement justes. Et comme l'exemple que j'ai donné, ça pouvait être que les hommes de là-bas ont violé la fille qui est allée à la source et que c'est là pour venger l'honneur de notre sœur, cela pouvait aboutir à la guerre. Mais très souvent, avant que vraiment on arrive à l'affrontement, en amont, il se passe qu'on discute, qu'on palabre, qu'on envoie des émissaires. L'affrontement était le dernier recours. Et comme j'ai expliqué, la guerre était à peu près organisée en corps à corps. On va se convenir les jours que la guerre va commencer. Et on va exclure que les femmes et les enfants ne soient pas les victimes de la guerre. C'est les hommes censés, donc ceux qui sont les militaires de l'époque, censés protéger la nation, qui vont se battre entre eux. Et ils ne vont pas se venger sur les enfants ou les femmes. Ceux-là ne sont pas concernés par les conflits. Les conflits, c'est les hommes qui les règlent. C'est comme ça, généralement, dans les temps, ça se passait. On ne veut pas déporter les femmes d'autrui ou les enfants d'autrui aller en faire des esclaves. Dans l'anthropologie des communautés du Nord-Kivu, ça ne se passait pas comme ça. Si nous vous avons vaincu, nous allons vous soumettre. Par exemple, on va vous exiger de chaque fois payer un tribut à la fin de chaque année ou de chaque mois que vous devez nous rendre. Un sac de ceci, telle quantité de ceci, tel animal, tel nombre de chèvres, parce que nous vous avons soumis. Voilà à peu près comment ça se passait dans l'art de la guerre dans les temps.
Alors, nous allons faire un bond pour venir dans les moments présents. Pour vous, en voyant comment la guerre elle s'est faite, vous êtes habitant de la région, quels éléments on peut prendre de l'organisation de la guerre dans les sociétés traditionnelles pour essayer un peu de les appliquer dans ce qui s'est fait aujourd'hui, peut-être pour nous aider à trouver une solution?
Bon, je pense qu'il y a des choses qu'on peut épuiser. La première chose, c'est qu'il faut laisser à ceux qui sont censés faire la guerre, eux seuls, pas impliquer les autres acteurs. Les militaires, qu'ils aillent se battre contre les autres militaires. Si déjà on arrive à ça, ça devient une guerre classique. Ça veut dire qu'on ne mélange pas les civils dans la guerre. Que ça s'organise, que quand ils se battent entre eux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les temps, pour comment la guerre s'est pratiquée, il pouvait arriver que, au lieu de faire le corps à corps que deux armées, donc les hommes de l'autre nation et les hommes de l'autre nation se battent, on choisisse que vous envoyez un seul monsieur et nous un seul monsieur. Les deux là vont se battre pour les deux nations. Celui qui sera vaincu, la nation aura perdu. Et on choisissait entre les deux camps, chacun amène son homme et on les regarde se battre. On les encourage. Et celui qui est battu, nécessairement pas être tué, cela pouvait arrêter la confrontation que les gens puissent mourir. Alors maintenant, je rentre. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Non. Aujourd'hui, la guerre a évolué, a été modernisée. Mais la première chose que j'ai dite, pour que si on ramène ce qui a les faits passés dans les nations anciennes jusqu'à la confrontation des guerres actuelles, la première chose, est-ce que les soldats peuvent se battre et éviter d'impliquer les femmes et les enfants comme victimes collatérales de la guerre? Ça, c'est possible, c'est jouable. C'est faisable, en fait. On peut organiser que si la guerre est la guerre, que les autres n'en subissent pas les coups. La deuxième chose, c'est qu'on prépare les soldats à un ensemble de rituels. Les rituels, ce n'est pas boire l'alcool frelaté ou fumer les chavres. Ça, ce n'est plus un rituel. Déjà, vous souillez votre corps avant d'aller à la guerre. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez avoir un succès en état souillé. Donc, il est possible. Mais aussi, qu'on organise la vie du soldat, par exemple. Quand je dis l'organiser, nous savons par exemple que dans le contexte actuel, le soldat, ils ont beaucoup de femmes, il a laissé une autre femme à Beni, quand il était là-bas, une autre ici. Il n'est pas moralement et spirituellement préparé à faire la guerre et s'assurer de la vaincre. Parce que les conditions dans lesquelles il vit, par exemple, ne les mettent pas dans une préparation morale et spirituelle qui permette à ce qu'il puisse aller à guerre en ayant une âme saine pour participer à la guerre. Donc si on fait ça aussi, je pense que si en amont on organise la vie du soldat de telle manière qu'il soit sainement prêt à aller se battre, ça peut être quelque chose. Et la dernière chose, c'est avant de se battre, est-ce que chez nous, dans les guerres contemporaines, on trouve le temps d'abord de parler avant la confrontation? C'est-à-dire, comme j'ai dit, dans les sociétés traditionnelles, la confrontation était le dernier rempart. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, maintenant on ne peut plus changer quoi que ce soit, on va se bagarrer. Comme ça, celui qui va perdre, il va perdre. Mais aujourd'hui, cela n'arrive plus. La guerre devient comme si c'était... En fait, c'est devenu même une occasion. À la limite, la guerre est devenue un business. Dans les temps, la guerre n'était pas un business. La guerre, c'était, puisqu'on n'a plus rien à faire, on va aboutir à la guerre. Mais aujourd'hui, la guerre est devenue un business. Les gens peuvent provoquer la guerre parce qu'ils veulent avoir l'argent. Pas nécessairement ceux qui vont débattre, mais les politiciens ou ceux qui vendent les armes ou ceux qui vendent les munitions ou ceux qui vendent la ration aux militaires. Tous peuvent rentrer dans un business pour que la guerre ait lieu. Alors qu'elle est évitable en amont. Donc, s'il est possible de parler que la confrontation soit le dernier recours, alors il est possible qu'on puisse éviter la guerre.
Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Kolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongi sa Kongo aveni ebongi to sala moto nyo sota mwana Kongo ya mosolo mpembe anzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Kongo aveni ebongi to sala Moto nyo sota mwana Kongo ya mosolo mpembe anzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo ne mboka Kongo, mboka ya bankoko Kongo, mboka mwana pamba Lobi, mboko lula yango Kongo, Kongo ya Afrika Kongo Kaya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo mbako bikisa yo Kongo mboka Congo, mboka ya makoko. Congo, mboka mwana pamba lobi, mboka lula yango. Bazali koyekola Congo, bakobikisa yo. Congo, Congo ya bakoko, Congo, Congo ne mboka. Congo, Congo ne mboka, Congo.
Après avoir suivi M. Wema Kennedy qui nous a parlé de la manière dont s'est préparée et s'est déroulée la guerre dans sa communauté Nandé, l'une des communautés du Nord Kivu, nous retrouvons à présent M. Dido Makila. Il est de la communauté Dinga, un territoire d'Idiofa dans la province de Bandundu. En mission de service à Goma, il nous parle de la perception de la guerre dans sa communauté et de la manière dont elle s'est menée.
Je suis Dinga de Bandundu, des parents nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa, mais j'ai eu à faire toutes mes études depuis l'école primaire dans la province du Congo central, et c'est là où j'ai fait l'école primaire, secondaire et universitaire aussi. Et je viens achever à l'UPC en licence et maintenant pour la thèse.
Alors, nous parlons de la guerre dans les sociétés ancestrales. Comment s'organiser? Comment était organisée la communauté? Est-ce qu'il y avait des affrontements dans les communautés ancestrales, là, dans votre communauté d'origine?
La guerre, ce n'est pas une bonne chose d'emblée, mais est-il que ça arrivait, les conflits entre les parties? D'une manière générale, l'Ouest est habité par des peuples calmes, de nature. Ils ne sont pas dans trop de guerres, pas de conflits. Vous connaissez la région Ouest, elle n'a pas été trop touchée dans les guerres, hormis les guerres qui sont venues de l'extérieur. Pour mes parents, ceux qui me disaient, comme ils ne supportaient pas ça et que ça n'était pas de leur culture, ils fouillaient. Et la première résonance, c'était la fuite. Aller se cacher dans d'autres coins parce qu'ils aimaient la paix pour aller s'abriter et fuir. Les agressions qu'ils ont connues les avaient déstabilisés totalement. Et en eux-mêmes, comme je l'ai dit tantôt, ils n'avaient pas cette culture-là d'affronter les autres. Un peuple réservé sur soi, qui cherchait la paix et grandit comme ça. Mais toutes les fois qu'il était agressé, c'est là où intervenait la réplique. Et souvent, c'est la nuit. Parce que quand on connaît la position de l'adversaire, la journée, c'est imprudent de l'attaquer. Il faut chercher la nuit, se préparer en conséquence et voir par quelle mesure l'attaquer pour éviter des pertes dans leur camp. C'est ce qu'on évitait toujours.
La défense, comment était-elle organisée au niveau des communautés ancestrales?
Bon, ça j'apprends et j'ai fait même un travail en licence sur ça. Dès qu'il y avait agression, c'est le chef du village qui sentait qu'il y a un corps étranger chez nous. La première des choses, c'était les signaux. Les signaux, il y avait des tam-tams, il y avait des trucs qu'on avait créés là au village. Chaque son avait une signification. Il y a des sons qui disaient qu'il y a une fête, il y a des visiteurs. Il y a agression. Ou bien quelqu'un qui est abattu dans la forêt, il y a un animal dangereux qui entre dans le village. Et à ce moment-là, tous convergeaient vers la maison du chef pour saisir l'information. Et c'est le chef qui organisait la suite des temps. Il prend les gens, il leur dit, dans les cas d'espèce, nous sommes agressés, nous devons protéger notre territoire. Et comment le faire? C'est pas tout le monde qui va à la guerre. Il y a des gens qui sont préparés pour ça. Des hommes forts de la cité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut épargner les femmes et les enfants. Où les cacher maintenant? Sûrement, il disait, il y en a qui allaient vers les bords des rivières. Parce que la rivière donne sens à la vie. Ils peuvent trouver de l'eau à boire pour les enfants, un peu des choses dans les champs pour manger, parce que quand il y a la guerre, on ne sait plus travailler. Ouais. Alors, il y a des hommes qui sont préparés pour affronter l'adversité qui arrive. Comment les faire? Ils viennent comment? Par quelle direction? Et comment nous y prendre? Les armes, vous le savez, c'était les flèches. Et qui étaient aussi empoisonnées. Ouais. Parce qu'il se fait que vous soyez touché par une flèche, vous tombez. Parce que la tête là était déjà empoisonnée. Et c'est comme ça qu'ils allaient affronter l'adversité qui venait et se rendre compte qu'on a maîtrisé. Et les femmes étaient dans les cachettes, soit ils se déplaçaient, vous quittez Goma ici, vous allez vers Massissi, allez rester là-bas. Nous ici on va attendre l'adversaire qui arrive et voir comment le contourner. C'est comme ça qu'ils préparaient des hommes, des chasseurs aguerris. Et il y avait des hommes dans l'équipe, il y avait des hommes d'élite. Ces messieurs-là, quand ils tirent, souvent, ils ne ratent pas son gibier. Mmh. C'est celui qui sera parmi les grands devants. Mmh. Et les chefs aussi étaient protégés, parce que si les chefs meurent, c'est fini. C'est fini. Il faut protéger les chefs. Mmh. Donc, il y a l'élite qui est mise là-bas. Et la communication, c'était des signaux. Ils avaient des cris qu'ils lançaient pour dire que nous avons franchi, nous l'avons eu, nous sommes à tel niveau. C'était des signaux, des cris qu'ils lançaient. Et chaque cri avait une signification.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas facile d'avoir un tam-tam pendant que vous êtes au front. Mais les cris signifiaient que maintenant, nous avons affranchi, nous l'avons touché, nous sommes sortis du camp dangereux, nous sommes en sécurité.
Mmh. Avant d'en arriver aux affrontements, est-ce qu'il n'y avait pas des étapes, je ne sais pas, essayer de comprendre ou de régler les problèmes sans arriver à la bataille?
Bon, la bataille, comme je l'ai dit, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand vous êtes agressé, est-ce que vous avez le temps de négocier avec l'adversaire qui est de l'autre côté? Non, non. Vous vous préparez pour protéger votre territoire. Mais quand c'est un conflit entre ethnies, on s'appelait. Parce que les chefs devaient, comme le disaient mes parents, ils appelaient l'autre chef de l'autre camp. C'est ça, les négociations d'abord. Et c'est ça que nous appelons l'écoute. Pourquoi ces conflits arrivent? Qu'est-ce qu'il y a eu au départ? Qu'est-ce que les uns et les autres devaient faire pour éviter ça? C'était ces moments de rencontre entre les grands, les chefs. Non, ils ont volé notre territoire. J'entendais parfois les gens dire non, ce corps-là qui a été enterré chez nous doit être délocalisé, doit rentrer chez vous. Non, vous avez violé notre espace, vous êtes en train de cultiver chez nous. Des conflits parfois, surtout des conflits de terres. C'était ça pour la majorité. Soit ils sont allés chasser dans notre camp, soit c'était par des conflits de mariage. Ils se sont mariés et ça n'a pas abouti. Et là, il faut que les chefs se mettent ensemble et se parlent. Quand on trouve qu'il n'y a pas de solution entre les chefs, ils convoquent leur père. Chacun vient avec son équipe et on va débattre autour de ça. Et on sait que les Bambuta sont en Kinzonzi. C'est ça qu'on appelait Kinzonzi dans les Congo central. La palabre. Ils se mettent, ils se parlent franchement. Des vérités choquantes, mais ils se les disent avec beaucoup de politesse. Souvent, vous savez, ils avaient les choses de claquer les mains. Quand ils font ça, donc je demande la parole, donnez-moi la parole. Ils parlent. C'est ce qui est descendu même dans les cadres de conflits dans les foyers. Ils parlent, ils voient qui a tort, qui a raison, est-ce qu'on ne peut pas céder sa raison pour qu'on trouve solution? Et très souvent, il réussissait dans les palabres. On finissait par trouver un compromis. Et chacun était mandaté d'aller dire à son camp. Ces conflits-là dont vous avez entendu des terres, des morts, de ceci, est fini. Désormais, recevez les autres comme des frères.
Oui.
Parce que nous sommes condamnés à habiter ensemble. Et c'est comme ça qu'ils résolvaient les grands conflits. Dans la paix, et souvent c'était le soir.
Et au cas où les conflits n'étaient pas réglés dans les Kinzonzi.
Les Kinzonzi, voilà. Oui.
Comment la préparation des hommes se faisait avant d'aller à la bataille?
La bataille devient un autre aspect quand il y a menace, agression, violation.
Oui.
J'ai parlé dans les cas où on doit chercher un terrain d'entente avec, par exemple, des tribus qui ne s'entendent pas.
Oui.
Mais quand c'est l'adversité, un autre camp est venu agresser. Là, c'est les camps agressés qui se sentent lésés, qui consultent ses pairs, qui trouvent que non, notre territoire est violé, nous sommes en insécurité, il faut sécuriser la partie. C'est dans ces cas-là que les chefs convoquaient ces gens et prenaient des dispositions, parce que quand on est déjà menacé à mort, il faut répliquer. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'ils prenaient, d'après ce que les parents nous disaient, ils prenaient des gens capables d'affronter l'obstacle et on épargnait les enfants et les femmes. Soit vous, quittez ici, allez à tel endroit, nous nous allons attendre ou nous allons les affronter. Les palabres, c'était pour des problèmes qu'on peut régler entre les deux camps, entre les deux familles, les deux tribus. Et quand ça n'arrivait pas à trouver solution, c'est comme ça que tu entends l'adage, la nuit porte conseil. On n'est pas arrivé à une conclusion, dormons, demain on va parler. Voilà, ça c'est africain. Demain on va parler, tout ne doit pas finir aujourd'hui. Et demain, ils se retrouvaient et ils recommençaient. Hier, on s'est arrêté à tel point. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Parce que la nuit a porté conseil.
Oui.
Voilà, ça c'est l'Africain. Très sage.
En s'inspirant de ce qui se faisait dans les communautés, dans nos communautés ancestrales, là nous sommes dans la partie ouest du pays, par rapport à la vie actuelle, qu'est-ce qu'on peut tirer de là pour régler nos problèmes? Par exemple, là vous êtes à Goma, vous venez de Kinshasa, nous on est dans une zone où il y a la guerre. Par rapport à la sagesse ancestrale des règlements des conflits et des conduites de la guerre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour solutionner ce que nous vivons depuis des décennies ici?
Je l'ai dit tantôt, madame, que la zone ouest est une zone pacifique. Des gens qui ne sont pas habitués à des conflits, à des guerres. vous allez le voir dans l'histoire. Et le cas de Goma, personnellement, ça me fait très mal. Hein. Ce que je vis et me prive parfois de sommeil. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a 2 jours, nous n'avons pas d'électricité dans la ville. Parce que les affrontements à côté ici, à 20 km, ont fait que nous sommes privés. Et ça énerve. C'est pas gentil. Il y a des morts dans les hôpitaux. Est-ce que les gens imaginent tout ça? Comment résoudre ces conflits? Moi, je pense que c'est d'abord la part. Non, la population est innocente. Elle souffre gratuitement. Je vois tous ces camps de déplacés ici à Goma. J'en ai vu hier. J'étais écœuré. À l'hôpital où nous faisons les stages, madame, on voit des gens abandonnés à l'hôpital à Virunga. Parce qu'ils n'ont plus de maison. Ils sont logés sur des bâches. Des gens qui hier avaient des maisons. Il y a des bonnes manières qu'on peut avoir entre nous. Et c'est pour nos dirigeants. La population de Goma est tentée de payer un prix. Gratuitement. Pourquoi? Moi, j'ai dit ma prière. Que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. Et qu'on se dise, qu'on se parle en face. Que chacun reste dans son camp et voit sa part. Moi, je pense que ma prière, c'est que ce que les uns et les autres aient des occasions. Il y en a eu dans l'histoire, mais que les gens se parlent ouvertement, qui disent, mais non, ça c'est pour moi. Si tu peux l'avoir, viens négocier, tu vas apprendre. C'est simple. C'est la négociation. C'est le discours, l'Africain. L'Africain a une culture, a des valeurs. Chez nous, c'est l'écoute et la communication. On se parle. Même si ça peut prendre toute une journée, on se parle. Et que l'arbitre soit vraiment sincère. C'est pourquoi on dit que quand on va se faire le mariage, on prend un zonzi. Pourquoi? C'est lui qui va parler du côté de la famille de l'homme. Hein? Il y a un professeur, le professeur Ngaïmbogo, qui nous a insulté, qui nous a fait rire. Dans les dots, même si on a amené 2000 dollars, on ne va pas déposer comme ça devant tout le monde, Rosalie. On y va, on fait des cérémonies, on parle, on va derrière la maison, on revient, alors qu'on a 2000 dollars à déposer pour prendre la fille. Mais ce n'est pas qu'on la prend, on ne va pas l'arracher. Et après, on dit non, nous venons honorer notre belle fille, nous vous avons amené quelque chose, vous avez remarqué ceci, cela, voilà ce que nous avons amené. Oh non, c'est peu, il faut ajouter, mais non, nous aussi. Et on crée, c'est un pont qui se crée entre les deux. Et demain, la fille va former une famille de l'autre côté. C'est un pont qui est créé. Et les deux familles peuvent se rencontrer. Notre souci, c'est qu'on crée des ponts. On ne peut pas détruire les ponts, sinon on ne va plus passer. Donc, que Dieu aide ceux qui dirigent nos pays.
Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali chezela. Yahweh benisa Congo, Yahweh batela mitongo.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé aujourd'hui de l'organisation de la guerre dans nos sociétés traditionnelles. Nous avons été dans les communautés Nande du Nord Kivu et Dinga des Bandundu. Merci à nos deux intervenants, Wema Muindo Kennedy et Dido Makila. Prochainement, nous revenons sur ces sujets avec des intervenants d'autres communautés de la RDC. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez les réécouter sur notre site, les www.radiokapi.net. Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes de Radio Okapi. Portez-vous bien, au revoir.
Ninguém tumba até Oi tumba e bem na catimia e buma cabundeco e te que colo oi na dibuma mani e bocaba Yahweh bendisa Congo Yahweh batera bana Congo Yahweh bendisa Congo Yahweh batela ni Congo
Independence cha cha dans souillé. Koki Ponza, cha cha, tout bakini. Mota Peron, cha cha, bakanyeo. Koki Panda, cha cha, tout souillé.
Tangwe tanina mokili ya Congo. Congo molini esili. Conflit sur conflit. Yé bambo que tango la caramo conchi et mon côté. Assié longo na peuple. Imboa, a jalina ma coloma nehi. Alanda cancela se apae.
Ma conchi a Congo. Ma cambi a Congo. Ma conchi a Congo.
Denis Asongeso, Ochombe Mondial, Joseph Kabila, Makonzi ya Congo, Melesi na likanisi monene bozui, ya koti ya kimia na peuple. Et mon autre terre qui est Congo, cultivons la pour un avenir meilleur.
Yahweh, Yahweh, bénis à Congo. Yahweh, Yahweh, batera mi koko. Yahweh, Yahweh, benisa mi koko. Yahweh, Yahweh, batera mi koko.
Prophète Simon Kimbangwe, Machwa Ndere, Ana Kongo, Bako.
Yebale ya Kongo. Et j'ai le pangote, cache et j'ai l'eau, je l'ai.